C'est 16 degrés sur Québec. Je pensais que Pascal allait nous ramener de la chaleur à Québec. Elle qui était en voyage dans l'Ouest canadien.
Ben voyons.
À Sandbanks.
5 jours, le grand voyage. Oui. J'appelle ça des congés.
Faire de la plage, faire du bateau, de la pêche.
J'ai fait du vin et de la pêche.
Ouais, j'ai pas vu le capitaine de bateau, par exemple.
Ben arrête de dire ça.
Comme toutes les instababes, on voit toujours les filles sur le bateau. On voit jamais le pauvre capitaine qui a travaillé si fort pour avoir un beau bateau.
Je n'étais pas à lac Beauport ou sur le lac Saint-Charles où j'étais sur un bateau de pêche. Donc le pêcheur... je veux dire, il vit dans sa cale, là, jour après jour. Je veux dire, il se lave dans une semi-douche. Il, tu sais, pauvre gars, là, tu l'exposes pas. Ça, c'est tout vrai, mais ma réflexion n'était pas là. Mais non, mais je veux dire, j'ai photographié ma gang.
Ouais.
Puis j'ai des photos de lui. Par contre, là, si vous voulez vous payer un trip de pêche du type, là, à un moment donné, là, courez.
Ça vaut la peine?
Il n'y a rien qui valait pas la peine là-dedans.
Parfait. Maximum de 19 pour aujourd'hui, partiellement nuageux pour ce soir. 30% de probabilité d'averse qu'on nous mentionne pour ce soir. Minimum de 9. Pour ce qui est de demain, vendredi, un ciel dégagé, maximum de 18. Samedi, ensoleillé, maximum de 21. Et dimanche, plein soleil, maximum de 23 degrés. Donc, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, on va l'avoir certainement en fin de semaine. Lundi, j'étais supposé d'y parler. C'est mon spécialiste en aviation. Puis comme Pascal n'était pas là, il m'a choqué. On le salue. C'est Charles-Éric Lamarche qui est spécialiste en aviation. Comment ça va, mon ami?
Salut, vous autres, ça va bien?
Très content de te jaser. J'ai hâte de te jaser pour des bonnes nouvelles en aviation. On peut-tu se faire un show, à un moment donné, toi puis moi, où on va parler des belles nouvelles en aviation?
Ah, c'est fun, ça.
Te souviens-tu, à une autre époque, on avait fait une émission ensemble, des petits miracles de l'aviation?
Oui, on avait fait ça, c'est vrai.
Hein? Ça avait été un beau moment, ça. Ouais. Vraiment, là, des histoires qui partaient tragiques, qui finalement... se sont très bien terminés. Et on ne se le cachera pas présentement, 2025, on va en avoir de besoin d'histoires comme ça, parce que jusqu'à maintenant, je le dis à chaque fois qu'on se parle, je finis toujours en disant ça, ne vous inquiétez pas, l'aviation est toujours le meilleur moyen de transport, le plus sécuritaire au monde. Mais quand on vit des journées comme aujourd'hui, ça donne toujours un petit peu froid dans le dos.
Ben oui, puis on en parlait.
Ça peut inquiéter les gens.
On en parlait en début d'émission parce qu'il y a eu certains événements qui ont été rapprochés dans les 2-3 dernières années. Puis à chaque fois qu'on en parle, sur les textos 88-971-1021, il y a des gens qui disent « Ah, maintenant, je me questionne, prendre l'avion. » Puis tu sais, Yannick réitérait, c'est un des moyens, si ce n'est pas le moyen de transport le plus sécuritaire en termes de ratio.
Au niveau des statistiques, effectivement. Puis je pense que c'est le fait qu'on est pogné comme dans la boîte à sardines, puis on peut pas sortir. On se dit, il y a plus de danger parce qu'on peut pas sortir. Mais au niveau des statistiques, moi, je me rallie du côté de Charles-Éric Lamarche. Effectivement, l'avion, c'est le meilleur transport pour être en sécurité. Puis c'est tellement surveillé. On en a souvent parlé, Charles-Éric, on trouvait tout le temps ça bizarre que les Québécois applaudissent là, quand ils atterrissent dans un autre pays. Moi, en tout cas, moi, de mon côté, je leur dis souvent, si vous voulez applaudir parce que vous êtes encore en vie, là, applaudissez quand vous êtes rendu à 25-30 000 pieds dans les airs, là, parce que c'est là où c'est le plus critique qu'il y a des problématiques. Là. Une fois que tu es dans les airs, le pilote peut s'organiser, mais au décollage, s'il y a une problématique, c'est là que ça commence à être plate pour tout le monde.
Ben oui, absolument. Puis l'accident d'aujourd'hui le démontre, visiblement, avec ce qui s'est passé en Inde aujourd'hui. On a vu, c'est un 787-800, un 787-8, pardon, Dreamliner, c'est, je vous dirais, là, c'est le summum technologique de Boeing, cet avion-là, présentement. C'est un bijou de technologie. J'ai eu la chance de voler 3 fois jusqu'à maintenant dans un 787. Puis à chaque fois, c'est un privilège hallucinant. Je trouve que c'est une machine technologique incroyable. Un des premiers avions que presque la totalité des ailes est faite de carbone. Quand la portance se crée sur cet avion-là, là, on voit les ailes qui flexent. C'est magnifique à voir aller. Alors vraiment, c'est un avion qui est, comme on dit en anglais, state of the art. Là.
Ouais.
Et visiblement, il y a quelque chose qui s'est passé et qui a fait qu'ils n'ont pas pu avoir la puissance nécessaire pour la maintenir en vol. Alors, qu'est-ce qui a créé cette panne-là? Qu'est-ce qui a créé ce problème-là? Et visiblement, ils l'ont eu très, très, très rapidement parce que les roues étaient encore sorti lorsque l'avion s'est mis à perdre de l'altitude. Donc, l'avion a été à peine dans les airs pour 30 secondes. Et vous le savez, comme moi, en Inde, c'est un des endroits les plus populeux dans le monde. Alors, c'est tombé dans une zone résidentielle, a frappé un bâtiment qui hébergeait des médecins aussi. Et miracle, parmi ça, présentement, on aurait retrouvé au moins un survivant qui est un passager de l'avion.
Ah oui,
donc,
OK.
Présentement, oui, ça reste à être confirmé, mais présentement, on aurait un survivant.
Donc, actuellement, Charles-Éric, on est autour de 242 personnes qui seraient décédées. Là, tu me confirmes qu'on avait un survivant là-dessus. Sur ces 242 personnes-là, il y avait...
Oui, il y a certains rapports qui donnent ça présentement.
Il y avait 169 Indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais et 1 Canadien. Il y avait 12 membres de l'équipage aussi. Qu'est-ce qui peut causer ce genre de problématique? Et pourquoi on ne prévoit pas comme un certain nombre de kilomètres, là tu vas dire Yann, c'est parce que ça serait, on n'en finirait plus, mais pourquoi on n'a pas une certaine zone de sécurité qui continuerait plus loin que la piste? Tu sais, il y a certains aéroports dans le monde où c'est des avions commerciaux, puis dès qu'ils lèvent, là, c'est la plage qui est en dessous. Là. Pourquoi il n'y a pas plus de kilomètres où l'avion pourrait être susceptible de réatterrir par la suite s'il y a une problématique?
Dans l'aviation, c'est pas mal toujours ce qu'on appelle la gestion du risque. Alors, gérons le risque qui est le plus acceptable. Et présentement, notre gestion du risque, il y a des zones tampons alentour des aéroports, il y a des zones qui suivent ce qu'on appelle l'acte de piste, qui est prévu, mais quand même jusqu'à une certaine distance. Ouais. Évidemment, si on ferait des kilomètres et des kilomètres de zones tampons, ça serait la folie. On pourrait plus jamais rien faire alentour des aéroports, ça c'est sûr et certain. Donc, il y a déjà des zones tampons qui est prévu et présentement, ce qu'on vit, c'est le pire des scénarios. Le pire des scénarios, est-ce que l'avion est pas capable de développer de la puissance? Nos appareils sont toujours faits pour, surtout des appareils à deux moteurs, comme ça, multimoteurs, sont faits pour créer de la portance et être capable de se maintenir en vol avec au moins un moteur en marche. Alors ça, c'est le risque qu'on va aller gérer. Et là, les chances, les probabilités que les deux moteurs flanchent en même temps sont extrêmement minimes, mais pas impossibles. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec l'Hudson River, avec le Captain Sullenberger, dans son vol de US Airways, où est-ce que à 3000 pieds d'altitude, au-dessus de la ville de New York, il a frappé une volée d'arbres, ça va pas bien. Une envolée d'outardes et a été obligé de se poser dans l'Hudson River.
Ah, ça, c'est le fameux amérissage. Là. Il y a eu un film là-dessus. Là.
Ben oui, exactement. Un film qui est merveilleux. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de l'écouter, moi, je l'ai réécouté au moins 3 fois, puis je me tanne pas.
On n'est pas surpris de ça.
Oui, oui, absolument.
Petite question, y a-t-il des choses...
C'est maladie mentale que dirait ma blonde des fois.
Y a-t-il des choses qui changent dans le temps? T'sais, on voit dans certains secteurs d'activité, ben, pénurie de main d'œuvre, ça va un petit peu plus vite, on tourne les coins ronds dans quelque chose qu'on ne tournait pas les coins ronds auparavant. Là, est-ce qu'on peut présumer que dans le secteur de l'aviation, il y a des petits changements justement qui arrivent depuis les dernières années au niveau peut-être de ce qui est évalué sur l'avion, de certaines compagnies d'aviation qui sont moins chères pour permettre à plus de voyageurs de voyager, mais de moins de services et on tourne-tu les coins ronds?
Ben, dans l'aviation, on ne peut pas tourner les coins ronds et c'est très, très, très réglementé. Ce qui permet parfois à certaines compagnies d'offrir des prix moins chers, c'est pas en lésinant sur la sécurité. Ça va être souvent en offrant moins de services, en ayant des avions qui sont peut-être un petit peu plus vieux, des avions qui sont moins technologiques. Donc, c'est des éléments comme ça qui nous permettent d'offrir des prix qui sont moins chers. La sécurité est extrêmement réglementée. Évidemment, la pénurie de main-d'œuvre, ça touche un peu tout le monde. Mais c'est, comme je vous dis, là, c'est un milieu qui est extrêmement réglementé et qui doit être suivi rigoureusement. Est-ce que tout le monde est parfait? Il y a des législateurs là pour nous le dire là, mais tu sais, on n'est jamais, et là ça va prendre une enquête très 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 rapidement pour avoir l'information, et je vous garantis que les gens chez Boeing a vécu certaines difficultés dans les dernières années avec le Boeing 737 MAX qui a été cloué au sol, qui ont pris du temps, ils ont été pointés du toit pour beaucoup de choses. Là, le 787, c'est comme un peu leur bijou qu'ils ont en main, leur bijou de technologie, leur grande réussite des derniers 20 ans. Ils veulent continuer sur cette lancée-là. Ils veulent continuer que ce soit leur fer de lance présentement. Ils ne veulent pas se retrouver avec une histoire comme le 737 MAX. Donc, ils vont aider les investigateurs à aller chercher les réponses rapidement. Très, très, très rapidement, ça, je vous le garantis.
Les boîtes noires, dès qu'on les trouve, on sort l'information de là. Est-ce qu'il y a des dangers comme quoi, avec l'explosion, est-ce que la boîte noire peut être endommagée?
C'est fait très, très, très solide, mais de plus en plus maintenant aussi, ces boîtes noires-là, où les systèmes embarqués des avions de sécurité transmettent les données directement aux transporteurs. Donc, par exemple, le département de maintenance d'Air India ou le centre de contrôle des opérations vont recevoir déjà des paramètres de l'avion. Donc, on a déjà beaucoup de données qui sont storées, qui sont envoyées par l'avion, qu'on va pouvoir utiliser même avant d'aller chercher les boîtes noires. Même aujourd'hui, avec une technologie qu'on appelle la DSB, qui est la surveillance par satellite et moins par radar, on est capable d'aller extraire des données aussi qui sont très, très, très précises, qu'on n'avait pas accès avant. Donc, maintenant, ces données-là, il y a beaucoup de paramètres qui sont disponibles beaucoup plus rapidement qu'auparavant lorsqu'on devait trouver les boîtes noires. Évidemment, là, ça va nous confirmer l'information qu'on a lorsqu'on va avoir les boîtes noires. Puis, n'oubliez pas, on le dit souvent, il y a deux boîtes noires. Il y a l'enregistreur de données de vol et il y a l'enregistreur, ce qu'on appelle le CVR, le Cockpit Voice Recorder. Donc, tout ce qui se passe dans la cabine, autant la conversation qu'il va y avoir entre les membres d'équipage, mais tous les petits sons qu'on va entendre, ne serait-ce que les cliquetis des boutons que les pilotes vont activer, parfois juste avec la fréquence de sons que vont émettre les moteurs dans la cabine, puis on est capable de déterminer le régime moteur aussi si jamais on a un problème avec l'enregistreur de données de vol. Donc, ça parle beaucoup, beaucoup, mais ça prend du temps. Il faut que cet équipement-là soit en relative bonne condition, mais c'est une boîte qui est faite pour être résistante, résiliente. Donc, souvent, on est capable d'extraire les données là, qui sont recueillies. Là, on a eu un incendie important. On était au décollage. On s'en va vers Londres. On avait une grande quantité de carburant à bord. Par contre, l'impact, oui, a été quand même assez violent, mais pas comme si c'était un impact à grande vitesse. Okay. Donc, il y a quand même des bouts de l'avion qui sont quand même encore en bonne condition. Il va être capable de faire parler là, la carlingue pour les enquêteurs.
Charles-Éric Lamarche, merci beaucoup pour ton temps. Ma patronne a dit que je devais te libérer à S50. C'est ce que je vais faire.
Ça m'attrape.
Hey, merci à vous autres. Et la prochaine fois, je vous garantis, on va se parler de belles nouvelles. Puis je vous le dis encore, le transport aérien est le transport le plus sécuritaire au monde. La preuve, ma blonde est présentement dans un salon d'Air Canada en route vers les États-Unis. Puis je l'ai laissé partir un matin en disant bon voyage, tout va bien se passer.
Salut.
Salut.
Bye bye. L'excellent Charles-Éric Lamarche, qui est spécialiste en aviation. On parlait de ce qui s'est passé en Inde sur un avion d'Air India qui s'est écrasé sur une zone résidentielle. 242 personnes qui étaient à bord de cet avion-là. Charles-Éric me parle de possiblement une personne qui en serait sortie de cet avion-là en vie. Est-ce que cette personne-là l'est toujours? Ça reste à confirmer, mais quand même, 242 personnes qui étaient à bord et qui se sont écrasées sur une zone résidentielle. 240 sont mortes, là. 241 seraient mortes, selon les informations qu'on a actuellement. Là-dedans, il y avait 169 Indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais et 1 Canadien, en plus d'avoir 12 membres de l'équipage. C'est une tristesse. Je ne sais pas si vous avez vu les images de l'atterrissage forcé, mais c'est pas beau à voir.
Non, absolument pas. Puis ces images-là... Il y a vraiment celles censurées par les médias, puis il y a celles qui se ramassent sur les réseaux sociaux, là. TikTok de ce monde et autres.
Ouais, c'est très graphique. Là. J'entendais un témoin ce matin qui disait qu'il y avait des corps partout, puis l'avion s'est écrasé dans un endroit où il y a plein de médecins. C'est weird, le hasard, qu'est-ce que ça peut faire? Hein? Puis la personne était dehors, puis il y avait des corps calcinés partout. C'est une grosse tristesse qui touche le monde de l'aviation aujourd'hui.
Mais en même temps, tu te dis, quand tu prends l'avion... S'il y a arrivé quelque chose, c'est quoi tes moyens? T'en as aucun. Tu sais, pour tous ceux qui ont peur et qui se disent « Ah, je voudrais pas que ça m'arrive » ou « Quand je suis en avion, moi, quand il y a des perturbations puis des turbulences, ça me stresse. » Tu sais, il y en a qui vont faire de l'anxiété. Moi, j'ai déjà une madame qui a sorti le sac brun là, pour souffler dedans, tellement stressée avec des turbulences. Mais tu sais, C'est quoi que t'as là comme possibilité? Rien?
Non, mais t'es dans une boîte à sardines.
Ouais, c'est ça.
T'es là, puis il faut que tu donnes toute ta confiance aux gens qui ont travaillé sur l'avion en te disant « J'espère qu'ils n'ont pas pris de brossière. »
Il y a peu de moments dans ta vie que c'est ça.
Même affaire pour les pilotes. J'espère qu'ils n'ont pas pris de brossière. Je remets ma vie entre leurs mains, mais je vous répète, c'est comme Charles-Éric l'a mentionné, c'est extrêmement sécuritaire. Je vais juste poser une question à ChatGPT, si tu le veux bien. Bonjour ChatGPT, j'aimerais savoir où je dois m'asseoir dans un avion si je veux être sûr de rester en vie après un crash.
Bonjour, c'est une question qui intéresse beaucoup de gens. Selon certaines études, les places situées vers l'arrière de l'avion ont tendance à avoir un taux de survie légèrement plus élevé en cas d'accident. Les sièges près des issues de secours peuvent également offrir un meilleur accès pour évacuer rapidement. Cependant, il est important de se rappeler que chaque situation est unique et la sécurité dépend de nombreux facteurs.
Ouais, voilà. Je suis pas d'accord avec ChatGPT sur quelque chose, parce que quand quelqu'un décide d'aller aux toilettes se larguer, là, parce que tu meurs étouffé. Puis il y a plus de chances que ça arrive qu'il arrive un crash d'avion.
Ouais, je pense que... j'ai pas d'études pour dire ça, mais je pense que... Puis moi, c'est ce que je fais, là. Je vais toujours en arrière, parce que j'avais cette réponse-là, là, selon les études.
Je vais rester en avant, mais moi, en termes de ratio de pourcentage.
Des fois, t'as pas le choix. Tu sais, tu regardes l'endroit où tu vas être assis dans l'avion, puis là, tu te dis ah, « OK, je vais être carrément sur le bord des ailes. Ouais. » Puis c'est là qu'il y a l'essence. Fait que comme tu dis, si jamais il y a un crash, toi,
souffrir.
Dans ton cas, tu vas être proche des ailes.
J'aime moins souffrir, mais en termes de ratio, je peux mourir encore plus asphyxié que mourir brûlé.
1054, t'avais-tu quelque chose à nous dire avant de partir?
Sur la route, on va aller du côté de la fermeture, parce qu'il y a une fermeture sur la route 367. Ça, c'est entre la rue Edward H. et la route des Érables dans Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Il y a un accident. Les services d'urgence sont sur place, mais c'est fermé. Donc, je vous le mentionne. Sinon, sur Duplessis-Nord, hauteur chemin Sainte-Foy, la voie droite est bloquée. La sortie le chemin Sainte-Foy est partiellement entravé, il y a une panne. Boulevard 102.1 Marceau.